OK, on commence notre 127e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce matin, nous allons voir la doctrine de la disposition aux choses spirituelles. Alors, comme d'habitude, on rappelle que l'adoration comporte deux facettes, l'intérieur et l'extérieur. Donc, on a presque terminé les différents aspects de l'adoration intérieure. Je pense qu'il nous en reste deux. Alors, on a vu que la piété, c'était comme la base essentielle de l'adoration intérieure et qu'on pouvait la comparer à un arbre qui comporte de multiples branches. Jusqu'ici, on en a étudié 19 et on continue en examinant une 20e branche de l'arbre de la piété, la disposition aux choses spirituelles. J'ai traduit ça comme ça parce que je trouve ça difficile de traduire « mindedness of spiritual mindedness ». Moi, j'ai traduit « la disposition aux choses spirituelles ». Romains chapitre 8, versets 5 à 8, on voit que les choses de l'esprit s'opposent aux choses de la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, les Écritures nous donnent des définitions. Les choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu, la mort, l'amour du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et le péché. Dans Galates 5, versets 16 à 25, on a une description de ce que c'est la chair. Galates 5, versets 16 à 25. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Je me souviens d'avoir lu dans un livre, il y avait un Africain qui était né de nouveau, puis il comparait la chair et qui vivait parce qu'on a notre vieille chair et on a l'esprit en même temps. Donc, à l'intérieur de nous, il y a comme deux natures, la vieille nature et la nouvelle nature. Et il comparait ça à deux chiens. C'est comme il sentait qu'à l'intérieur de lui, il y avait comme deux chiens qui étaient complètement toujours en train de se chicaner. C'était, je trouvais l'image intéressante. Premier point qu'on va regarder, donc, vivre la disposition aux choses de l'esprit, c'est s'affectionner aux choses de l'esprit. Alors, bien entendu, les païens, ceux qui ne sont pas sauvés, ne peuvent pas s'affectionner aux choses de l'esprit. Seules les personnes régénérées le font. Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, seules les personnes régénérées peuvent affectionner les choses qui concernent l'esprit. Deuxième chose, ce sont ceux qui ont du discernement spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien sûr, l'expression « l'homme animal », c'est l'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas encore né de l'Esprit. Alors, ça nous dit que cet homme-là ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit, et ça va plus loin que ça. Non seulement il ne peut pas les recevoir, mais ça se dit que pour lui, c'est de la folie furieuse. Alors, troisième chose, ce sont ceux qui jouissent d'une capacité spirituelle. Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21. Que la paix de Dieu, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, la capacité spirituelle, le texte nous dit que c'est Dieu qui nous rend capable de toute bonne œuvre. Donc, si on a une disposition aux choses spirituelles et qu'on est capable d'accomplir une bonne œuvre, c'est que Dieu nous a rendus capables. Quatrième chose, ce sont ceux qui manifestent les grâces de l'Esprit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est uniquement ceux qui sont habités par le Saint-Esprit qui vont manifester les grâces de l'Esprit. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, c'est vraiment l'idée qu'on est habité par le Saint-Esprit quand on est régénéré. Romains chapitre 7, versets 14 et 15 et versets 24 et 25. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, c'est vraiment Paul, après son salut, qui se rend compte qu'il y a les deux natures en lui. Il se rend compte qu'il aimait bien des choses qu'il serait capable, qu'il voudrait faire, mais il n'est pas nécessairement capable. Il se rend juste compte que c'est seulement par Jésus-Christ qu'il va être capable d'être libéré de sa chair et d'obéir au Seigneur plutôt qu'à sa chair. Maintenant, comment se manifeste cette disposition aux choses spirituelles? La première, c'est par la constante préoccupation de l'état de son âme. Alors, normalement, un chrétien se doit de toujours se préoccuper de où il est rendu au point de vue spirituel. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je pense qu'on a toutes, on connaît toutes par expérience que c'est vrai. Dans notre esprit, on est bien disposé à bien des choses, mais nos chutes presque quotidiennes nous rappellent que des chutes, des fois c'est pas toujours des chutes immenses, des grosses chutes, mais des fois c'est des petites chutes. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, première manifestation de cette disposition, la constante préoccupation de l'état de l'âme. La deuxième, par une sincère complaisance dans la loi de Dieu. Romains, chapitre 7, versets 14 et 22. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Dans le verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je pense que le verset montre vraiment le combat intérieur. Tu sais. Il dit que quand il dit « je suis charnel », c'est qu'il se rend compte qu'il y a encore sa chair à l'intérieur de lui. Ça... Et d'un autre côté, il dit que normalement, s'il y aurait eu juste la chair, il n'aurait pas pu prendre plaisir dans la loi de Dieu. Et là, il dit « car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur ». L'homme intérieur, je pense qu'il fait référence à l'homme né de nouveau, régénéré. Alors, il montre vraiment le combat que la chose provoque. Mais, à cause du fait qu'on est né de nouveau, maintenant, la loi de Dieu, le décalogue, pour nous, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est quelque chose qu'on considère qui est bon, qui est saint, et que l'Éternel a raison de nous donner ça comme loi. Donc, une autre manifestation, c'est par une délectation de l'Évangile. On sait quand on aime bien manger qu'on va manger quelque chose qui est très bon, on se délecte. Alors, on devrait se délecter de l'Évangile. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » Psaume 104, verset 34. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'Éternel. » Je pense qu'on est en train de dire que ce verset-là, il va s'appliquer ce matin. « Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. » On vient de chanter et on va rechanter tantôt. « Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Je pense qu'un chrétien fidèle, toute sa vie, il va célébrer Dieu par toutes sortes de façons. Éphésiens, chapitre 6, versets 19 et 20. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Voyez-vous, c'est Paul qui parle, et Paul, c'était pas le plus petit évangéliste, et il demande aux autres chrétiens, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Puis il dit jusqu'où ça l'a mené. Ça l'a mené dans les chaînes. À un moment donné, à force de l'annoncer, ça a créé tellement d'opposition qu'il y en a qui l'ont mis en prison pour ça. Puis il continue, il dit que « et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Même malgré toute cette opposition-là et tous les bâtons des roues que les païens ont pu lui mettre, il n'a jamais abandonné. Il a toujours continué de se délecter de l'Évangile et de vouloir que les autres se délectent également. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il y a une chose intéressante dans ce verset-là. Il nous dit qu'on ne doit pas avoir honte de partager l'Évangile. Mais il apporte un élément qu'on se doit de considérer parce que on ne peut pas partager l'Évangile sans souffrir. Notre problème, c'est qu'on essaye, on voudrait la partager, mais on ne veut pas souffrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la partage plus ou moins. Mais lui, il dit ici, « souffre avec moi pour l'Évangile ». Donc, il y a un lien ici qui se fait entre partager l'Évangile et la souffrance, et il est inévitable. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, si on annonce l'Évangile de façon régulière, le véritable Évangile pur, on va être haï, rejeté, persécuté, comme le Seigneur l'a dit, de tous ses enfants. Autre manifestation, c'est par une préoccupation de recevoir les bénédictions spirituelles. Donc, quand on voit qu'à quelque part dans les Évangiles ou dans la Bible, on nous parle de promesses, de bénédictions, on nous parle, c'est bien entendu qu'un chrétien ne peut pas dire « Oh ben là, moi, ça, je laisse ça tomber. » On se doit d'avoir soif de récupérer, de ramasser toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur veut bien nous donner. Et il nous en a donné une quantité phénoménale. C'est nous qui, parfois, négligeons d'aller les chercher. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, nos bénédictions se font à cause de Christ. Et il nous dit qu'il y en a toutes sortes au pluriel. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. J'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il nous dit une vérité tellement importante à saisir. Il dit, comme sa divine puissance, il parle de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a vu que la piété, c'est l'adoration, c'est tout ce qui contribue. On a vu les 19 branches. Dans le fond, la piété, c'est tout ça. Puis, le passage nous dit que Dieu nous a donné tout ça, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais si on arrêtait un petit peu plus loin, à partir du verset 5, il nous dit, ajoutez à ta foi telle affaire. Il dit, faites tous vos efforts. Alors, c'est pas que faut prendre conscience que Dieu nous a donné un trésor de bénédiction, mais il nous dit qu'il y a une façon de s'en accaparer. Et il nous dit comment faire. Ajoute à si ta foi. Je sais pas si vous vous souvenez du passage. C'est un passage extrêmement important parce que ça nous fait prendre conscience que les bénédictions de Dieu, c'est comme s'il y en avait un gros trésor que le Seigneur nous a donné la clé pour aller les chercher, mais il nous a donné un moyen, une façon de procéder. Puis il nous dit que si on suit ça, c'est sûr qu'on va avoir une quantité phénoménale de bénédictions. Et non plus, quand vous vous souvenez de la fin, ça dit « vous ne serez pas sans fruits et vous serez stable. Vous allez demeurer stable dans votre foi. » C'est un passage qu'on devrait méditer parce qu'il est tellement profond. Alors, recevoir les bénédictions de Dieu sont là. C'est à nous d'aller les chercher parce que Dieu nous a donné le moyen de s'en accaparer. Autre manifestation, c'est par l'offrande à Dieu de sacrifices spirituels. Et Romains 12, versets 1 à 2, c'est un des versets qu'on cite souvent. Je ne suis pas sûr qu'on saisit pleinement qu'est-ce que Paul est en train de dire à ceux qui l'écoutent. Il leur dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Offrir nos corps, c'est pas juste à dire à Dieu, « Je t'offre mon corps ». C'est vraiment se mettre à la disposition de Dieu. C'est vraiment l'idée de l'esclavage spirituel. On se soumet volontairement à Dieu en lui offrant ce qu'on a, notre capacité d'agir, mais on se soumet à lui. C'est lui, on lui donne le droit exclusif et absolu de nous utiliser comme il l'entend. Pas sûr qu'on le comprend tout comme ça, là. T'es en train de dire à Dieu, je suis ton esclave, je t'offre mon corps et utilise-le comme tu veux, quand tu veux, à ce que tu veux. C'est ça que ça dit. Mais est-ce que c'est de la manière qu'on se comporte toujours dans la vie? Ça, j'en suis moins sûr un peu. Hébreux 13, verset 15. Donc, non seulement offrir nos corps dans le sens que je viens de dire, mais Hébreux 13, 15, nous dit aussi que offrir des sacrifices spirituels, c'est d'abord notre corps et toute notre vie qu'on offre à Dieu comme étant, autrement dit, on lui dit, utilise-moi comme un instrument comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est beaucoup ce qu'on dit là, si on est sincère. Hébreux 13, verset 15, c'est aussi nos louanges, parce que ça dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Donc ici, la louange est aussi associée à l'évangélisation parce qu'il dit la louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alors, confesser son nom, on confesse le nom du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas normalement. Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, quand on dit qu'on offre des sacrifices spirituels, quand on prend le temps de s'asseoir, de mettre tous les noms de l'Église sur une feuille et de prier pour toutes les choses qu'on connaît que ces gens-là demandent, soit le salut de leurs enfants, on peut nommer des noms, soit le salut de leur famille, est-ce qu'on le fait régulièrement? Pourtant, il nous dit bien ici, prier pour tous les saints. Alors, bien entendu, je pense qu'il va au-delà de l'Église locale, mais au moins, l'Église locale, on se devrait de prier pour tous les saints tous les jours, pour toutes sortes de raisons qu'on connaît, qui nous ont partagées. Aussi, ça se manifeste par la volonté de servir. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Alors, tout chrétien doit avoir dans son esprit l'idée de servir l'Église locale, servir les autres saints, pas nécessairement juste l'Église locale, ça peut être beaucoup plus large. Autre manifestation, par la volonté et le souci de croissance. Alors, on revient encore au même passage qu'on a mentionné tantôt, mais un petit peu plus loin, dans la conclusion de ce passage-là, ça dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Comment on peut grandir, croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Bien sûr, c'est les Écritures qui nous font connaître Jésus-Christ. C'est les Écritures qui nous augmentent notre connaissance du Seigneur et Sauveur. Et dernière manifestation, par la fixation du regard sur Jésus. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Moi, j'aime bien la version anglaise, le chef et le consommateur, c'est vraiment the author and finisher. L'auteur, Jésus-Christ, est l'auteur de notre foi, et il est aussi le finisher, donc celui qui va la finir, qui va la compléter, qui va la rendre jusqu'à destination finale. Bien important de saisir ça. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, on sait que c'est lui qui nous l'a donné la foi, et c'est lui qui va nous maintenir dans la foi, et c'est lui qui va nous emmener jusqu'à la consommation finale, jusqu'à notre destination finale. Troisième point, on va regarder les effets et les conséquences de la disposition aux choses spirituelles. Romains 8, verset 6, « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, on va un peu développer le premier point, la vie, c'est la vie. C'est la vie manifestée dans l'exercice des sens spirituels. Quand vous lisez les Écritures, on arrive souvent avec des expressions comme « voyez »,« sentez comme l'Éternel est bon ». Comment on peut sentir que l'Éternel est bon? C'est sûr qu'on parle d'un sens spirituel. Sentir avec nos sens spirituels. Quand le Seigneur dit, il dit aux pharisiens qui ne voyaient pas, l'autre, il rabait puis dit, ben, on te voit, là. Oui, mais ils ne voyaient pas spirituellement. Alors, c'est vraiment, la vie, elle se manifeste dans l'exercice de nos sens spirituels. Voir spirituellement, entendre spirituellement. La preuve, c'est que tout le monde peut entendre la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, que celui qui entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ça veut dire qu'il y en a qu'ils vont l'entendre avec leur oreille physique, mais leur oreille spirituelle, ils ne l'entendent pas. Alors, quand on est véritablement régénéré et qu'on est disposé aux choses spirituelles, on exerce nos sens spirituels dans le sens de voir spirituellement, entendre spirituellement, goûter comment le Seigneur est bon. Tu sais, il utilise un sens physique pour donner un équivalent dans le domaine spirituel. Toucher et sentir. Donc, c'est aussi l'exercice d'actes spirituels. Donc, il y a les sens spirituels, il y a aussi des actes spirituels. Quand on parle de respirer, respirer spirituellement, c'est la prière. C'est l'équivalent de respirer dans le monde physique. Un acte spirituel, respirer, parler, marcher. Quand on dit notre marche chrétienne, c'est l'ensemble de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions. Donc, c'est vraiment des... C'est aussi l'exercice des devoirs spirituels. Donc, il y a des sens spirituels, il y a des actes spirituels, mais il y a aussi des devoirs. Quels sont les devoirs que les Écritures nous disent qu'on a? Adorer, aimer, obéir, craindre et servir. C'est aussi l'exercice de diffusion spirituelle. On peut diffuser spirituellement de plusieurs façons, en exerçant le don spirituel que Dieu nous a donné. Donc, on diffuse les choses spirituelles, mais c'est aussi en conseillant, en avertissant, en exhortant et aussi en évangélisant. Donc, il y a de la diffusion spirituelle qui se fait à l'intérieur même de l'Église locale, mais il y a aussi de la diffusion spirituelle qui va au-delà de l'Église locale, qui va dans le monde en évangélisant ceux qui sont autour de nous, qui ne sont pas sauvés encore. C'est aussi l'exercice de la récolte spirituelle, donc la vie éternelle. On sait que nous, on l'a déjà. C'est que c'est intéressant des fois quand tu discutes avec les gens qui sont non sauvés, ils disent qu'il n'y a pas moyen de savoir si tu es sauvé dès cette terre. Pourtant, quand tu leur montres les versets, ils disent, ben là, nous autres, on nous a enseigné qu'on ne peut pas le savoir. Mais là, tu fais lire la parole de Dieu afin que vous sachiez que vous avez. Là, tu leur fais prendre conscience du temps du Verbe. Pas que vous aurez, que vous avez la vie éternelle. Donc, nous, comme chrétiens, on le sait qu'on l'a, la vie éternelle. Autre chose, donc, on a vu la paix, la vie, c'est-à-dire, la deuxième chose, c'est la paix. 1 Timothée, chapitre 2, verset 2, donc, c'est vraiment l'idée de vivre en paix. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Vous, quand on prie, il nous dit de faire des prières. Des supplications, c'est un petit peu plus intense. Une supplication, vous avez déjà eu des enfants. Quand un enfant veut quelque chose, puis qu'il veut vraiment, puis qu'il supplie son papa ou sa maman, qu'il veut l'avoir, c'est vraiment intense. C'est tout ton cœur qui est dans la prière. Donc, une supplication, c'est encore plus intense. Des requêtes et des actions de grâce. Donc, des requêtes, c'est demander des choses pour les autres, pour toi et pour les autres. Et aussi des actions de grâce, c'est remercier Dieu, mais pas le remercier uniquement pour nous, pour ce qu'il nous donne, ça dit pour tous les hommes. Donc Dieu est bon, malgré la méchanceté des hommes, et les Écritures nous invitent à remercier Dieu pour le fait qu'il les nourrit, pour le fait qu'il y a son soleil qui brille sur eux tous les jours, et bien d'autres choses encore. On se devrait de le faire. J'avoue qu'on n'est pas porté naturellement à faire ça. On est porté à être centré sur nous, sur l'Église, mais les Écritures nous disent bien de le faire pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Voyez-vous, quand on prie pour les gouvernements, on est scripturaire, on obéit à ce que Dieu nous dit de faire. Il nous dit de prier pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, donc on prie pour les autorités de ce monde, et il nous dit pourquoi? Dans le but que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, il y a des pays qui ne l'ont pas, cette vie paisible et tranquille-là, quand ils expriment leur foi chrétienne. Alors, on se doit, pourquoi que le Seigneur nous dit ça? C'est parce qu'on se doit de prier pour ces gens-là, afin qu'ils ne mettent pas d'obstacle à l'Évangile. Romains 12, verset 18. Donc, il y a vivre en paix, il y a aussi être en paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Peut-être une occasion pour nous d'examiner nos relations avec tous les hommes. Est-ce que dans notre conscience, il y a une personne ou plusieurs personnes avec lesquelles on a des comptes qui ne sont pas réglés, qu'on n'a pas pardonné? Il dit, c'est bien clair, recherchez la paix avec tous et la santé. Non, excusez-moi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, il nous dit que quand ça dépend de nous, c'est nous à faire c'est à nous à prendre l'initiative, à aller au-devant des gens et à essayer de demander le pardon. Mais ça peut arriver que tu aies fait quelque chose à quelqu'un puis tu lui demandes pardon qu'il dise non. C'est pour ça qu'il dit autant que cela dépend de vous. Moi, je peux vouloir la paix avec une personne, je peux lui demander pardon pour une faute que je lui ai faite dans le passé. Mais si la personne me dit « Ah, je veux rien savoir », là, bon, j'ai fait ma part, comme les Écritures disent. Tout ce qui dépendait de moi, je l'ai fait. Le reste, c'est sa responsabilité à lui. Hébreux 12, 14, bien important, rechercher la paix avec tous. Donc, il parle de paix ici. Et il parle aussi de la sanctification. Donc, ici, on parle de la sanctification progressive. Le Seigneur, il nous avertit, rechercher la paix avec tous et rechercher la sanctification, parce qu'il nous dit que sans sanctification progressive, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un avertissement assez sévère. Alors, on se doit de prendre tous les moyens pour se sanctifier. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Donc, il y a vivre en paix, il y a être en paix, et il y a aussi rechercher la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voyez-vous, Paul ne nous dit pas que quand on va dans une église, ça va être des relations parfaites, on n'aura jamais aucun problème à se tolérer les uns les autres, à s'accepter les uns les autres avec nos travers. On a tous des travers, puis c'est pour ça que les Écritures nous disent qu'on se doit de se supporter les uns les autres. Je dois avoir des affaires que je fais qui vous tapent ses nerfs, mais soyez bien certains qu'il y a peut-être des affaires que vous faites qui me tapent ses nerfs aussi. Alors, les Écritures nous invitent à se supporter les uns les autres. C'est sûr, c'est ça, c'est vrai, c'est ça la vérité. Et il nous dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, quand on se supporte les uns les autres, les païens, quand vous regardez de quelle façon ils se comportent, quand ils ont quelque chose que les autres leur tapent ses nerfs, tu sais, eux autres, bien souvent, ils finissent ça, « Ah, je veux plus rien savoir de toi. » Ils finissent ça là. Les Écritures nous disent, « Non, je ne suis pas de même. » T'as encore la nature pécheresse, tu pêches encore. Autant tu dois supporter les autres qui sont encore des pécheurs, autant les autres doivent te supporter parce que toi aussi, tu es encore un pécheur. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Bien, très certainement, implorer le Seigneur de nous montrer et de nous donner d'être davantage affectionnés aux choses spirituelles et de l'esprit. Deuxième application, les effets de vie et de paix de cette affection sont-elles richement présents et manifestes dans nos vies de tous les jours? Que l'Éternel soit béni, exalté et exalté éternellement.